Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler vie de couple, vie tendre, vie affectueuse. On va parler de différentes générations à travers le regard d'une femme. Celle qui nous parle aujourd'hui.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Leïla El Amrani, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Leïla?
Merci à toi, Yasmine. J'étais ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir avoir une discussion, comme tu sais, le fil de fer.
Ah, merci infiniment. C'est moi qui suis touchée et ravie de cet échange. Alors, Leïla El Amrani, qui conseille les autres et qui conseille surtout le cœur des autres, n'est-ce pas?
Oui, exactement. C'est quelque chose qui est important pour moi, le bien-être en couple.
Le bien-être en couple, absolument. Alors, qu'est-ce qui a justement motivé cet intérêt pour l'humain, d'abord, et ensuite pour le couple? Est-ce que c'est une histoire personnelle? Est-ce que c'est un constat? C'est quoi exactement?
Écoutez, durant mes 20 ans d'expertise, j'ai remarqué que le cœur du bien-être humain était essentiel pour pouvoir avancer, se réaliser dans sa vie personnelle, professionnelle, etc. Et donc, être en couple et être bien dans son couple plutôt, était important. Et j'ai remarqué que plusieurs personnes avaient des difficultés aujourd'hui, ces dernières années notamment, bien avant le Covid quand même, quelques temps avant le Covid, de trouver un partenaire et d'être tranquille dans sa relation. Et c'est ce qui m'a motivée pour avancer dans ce sens.
Alors justement, les principales problématiques, qu'est-ce qui cloche en général? On entend de plus en plus de jeunes ne pas avoir envie de se marier, retarder au maximum l'engagement. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux générations précédentes, qui sont pas bien plus anciennes? Qu'est-ce qui est en train d'évoluer dans notre société?
Eh bien, la peur de l'engagement déjà. La peur de l'engagement, d'où vient-elle? Elle peut venir de plusieurs raisons, de l'histoire de la personne, son histoire propre toujours, et ensuite des exigences qui changent, des attentes de l'autre, de l'un et de l'autre qui évoluent et qui changent. Malheureusement, les gens ne vont pas se focaliser sur les essentiels qui sont, à mon sens, les valeurs communes. C'est la base de la constitution d'un couple. Et donc, ils peuvent être perdus. C'est dans ce sens que ces personnes ont besoin de quelques conseils, quelques manières, d'être orientées et de se focaliser dans l'essentiel.
Alors, justement, c'est ça un petit peu qui m'échappe. Moi, peut-être que je suis un peu vieux jeu, mais voilà, mais c'est vraiment ça qui m'échappe. C'est que ces jeunes n'ont pas envie forcément de s'engager. Il y a la peur de l'engagement plutôt, pardon. On va l'exprimer ainsi. Mais en même temps, ils ont envie de s'engager et ont besoin de conseils. C'est ça que je n'arrive pas à saisir, en fait.
Oui, parce qu'ils sont ambivalents. Ils sont dans un moment d'ambivalence dans la vie où il y a cette peur de l'engagement parce que...
Les jeunes et les moins jeunes aussi, même ceux qui ont envie de refaire leur vie, en fait. Ils ont envie de refaire leur vie, après un divorce ou autre, mais en même temps, ont peur de cet engagement, etc.
Oui, de par leur histoire. Donc, ceux qui ont déjà été engagés, ils ont une histoire derrière qui va faire qu'ils vont avoir des difficultés à s'engager et à se mettre en couple. Et d'autres, et pour les autres, c'est tout ce changement, ces attentes qui changent, ces exigences. Il y a beaucoup d'exigences de l'un et de l'autre qu'il faut mettre à plat, à mon sens, dès le début. On sait souvent aux personnes que j'accompagne d'être très claire dès le début. On n'a pas besoin d'attendre un certain moment, de dire voilà qui je suis, voilà ce que j'attends, voilà mes valeurs, voilà, je veux me mettre en couple, je veux être en couple. Et il n'y a pas du tout de honte à cela.
Exact.
Très rapidement, on va savoir si l'autre va dans le même sens ou pas.
Alors, on a beaucoup parlé des autres, sauf que cette émission est avant tout tournée sur la femme que vous êtes. Sur, chaque jour, c'est une femme. Et vous dans tout ça, Leïla, justement? Et vous dans tout ça, votre cœur, comment il bat?
Écoutez, mon cœur, malheureusement, il bat trop fort. Il bat trop fort. Et c'est vrai que chaque semaine, je me pose, je me dis, mais pourquoi tu as besoin d'autant de travail? Pourquoi tu as besoin d'autant de faire? Pourquoi? Je suis psy aussi, je me remets en question, heureusement.
Ouais.
Eh bien, je me pose souvent cette question, mais je me dis, ben, finalement, ça me donne du bonheur et ça me nourrit. Et bien, je vais continuer dans ce sens.
Ouais.
Même si parfois, c'est très difficile parce que je cours beaucoup.
Oui, le travail prend beaucoup de place.
Oui, le travail prend de la place, pas beaucoup, mais il prend de la place que je lui donne,
ouais.
Parce que je choisis de lui donner cette place. Et par ailleurs, bien sûr, de toutes les manières, comme je le dis toujours, une vie sociale, une vie de couple, une vie de famille, une activité sportive, une passion, tout ça, ce sont des sphères avec lesquelles on gagnerait à jongler comme le jongleur du cirque. Et c'est comme ça qu'on pourrait rencontrer, entre guillemets, le bonheur de chacun. Il ne se détermine pas, chacun a sa manière d'être dans le bonheur, mais à mon sens, je pense que ce serait la meilleure manière universelle de trouver le bonheur, c'est de se construire plusieurs sphères pour pouvoir jongler. Quand je ne suis pas bien au travail, je vais chercher de la ressource dans ma passion, à travers mes amis, ma famille. Chaque fois, c'est une sphère différente que je choisis de prendre.
Absolument, absolument, selon le besoin du moment. Ça, c'est très bien dit, c'est très bien de rappeler en ce moment de reprise pour beaucoup de gens et pour les femmes aussi qui parfois donnent énormément de place à une sphère aux dépens d'autres sphères qui peuvent aussi les nourrir et jouer ce rôle de bouée de sauvetage quand c'est nécessaire. Alors, Leïla, justement, quand on s'occupe du cœur des autres, est-ce qu'on est, dans ce cas-là, bien immunisé contre les problèmes de couple?
Eh bien, c'est sûr que avant de s'occuper du cœur des autres, on est passé par des études. Bien sûr, je suis spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, spécialiste dans les relations de couple. Et de par cette spécialité, mon parcours personnel de vie de couple qui a fait que aujourd'hui j'avance dans ce sens et je me permets simplement, je préfère dire me permets, parce que personne ne détient la science. La science, je dis toujours, dans les relations, dans les sciences humaines, le savoir appartient à l'autre, c'est l'autre qui me donne le savoir,
ouais.
C'est pas moi.
Ouais.
À travers l'autre, j'ai le savoir et à travers ce qu'il me raconte, je vais construire ma propre théorie après mes études.
Mais par exemple, est-ce qu'il vous arrive d'entendre, Leïla, arrête de faire ta psy avec moi? Ça, je me mets dans la voix du conjoint ou la famille. Leïla, arrête de faire ta psy avec nous, les enfants.
Bien sûr, bien entendu, évidemment.
Ouais.
C'est certain.
C'est irritant quand on l'entend ou ça remet en place?
Ça me fait rire, non?
Non, ok.
Je dis, ben, ils ont raison, oh là là. Je m'excuse, je me mets à m'excuser.
Ouais.
Je suis désolée. On ne peut pas être la psy de sa famille. C'est impossible.
Oui, mais en même temps, j'imagine qu'on vous pose pas mal de questions. C'est-à-dire que vous êtes la confidente de beaucoup de personnes.
Mes enfants ou oui. Ma famille ou ma petite famille?
Mais, je pense surtout à la grande famille.
Oui, la grande famille.
Oui.
Mais vous savez, on ne peut pas être le confident, peut être le confident, entre guillemets, mais pas le psy de sa famille, parce que nous avons des relations affectives. Et dès qu'il y a de l'affect, on ne peut pas conseiller l'autre. Parce que dès qu'il y a de l'affect, tout se coupe. C'est pour ça que souvent on me dit, vous savez, c'est ce que m'a dit mon ami. En tant que psy. Je dis, mais le problème, c'est que ton ami, il y a de l'affect. Et moi, tu vas plus m'écouter parce qu'il y a la neutralité bienveillante.
Exact. C'est ça. Et donc, avec la famille, c'est différent. Mais j'imagine, vous êtes consciente de ça. Mais les autres, non.
Bien sûr.
C'est-à-dire, votre entourage, quand il vient vous voir, quand il vient se confier à vous, c'est aussi, entre guillemets, sous-entendu, la sage qui a fait des études dans ce sens.
C'est tout, mais pas plus. Je ne pourrais pas être plus. Mm. Je ne pourrais pas me permettre de dire qu'avec ma famille, je vais être plus, ni avec mes amis, parce qu'il y a de l'affect. Je connais leur mari, je connais leurs enfants.
C'est ça.
Il y a quelque chose d'affect qui rentre en jeu et qui fausse tout le travail.
Mm. C'est important de ne pas connaître l'entourage, par exemple, d'un patient.
Oui, c'est important parce que il y a encore l'affect qui joue et puis il y a un penchant qui se fait de manière inconsciente.
Ouais.
C'est pour ça que souvent je dis à certaines personnes qui veulent absolument consulter chez moi, et ils me disent non, ça me sécurise quand je connais la personne.
Oui.
Je dis, dans ce cas, on va traiter un point. On ne pourra pas traiter la globalité. On ne va pas pouvoir aller dans les schémas, par exemple.
Mmh.
On pourra traiter un point, l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est vraiment quelque chose de... c'est go to the point, ça se règle rapidement en 10 à 20 séances. Ça dépend de la personne, de sa génétique et de plein de points qui vont rentrer en jeu.
Oui.
Et on peut avancer. On n'a pas besoin de rentrer dans l'affect de la personne, dans ses relations, etc.
Mais c'est intriqué, non ? C'est intimement lié, enfin...
Oui, c'est intriqué, mais on n'a pas besoin... Mais on n'a pas besoin de remettre en question certaines choses.
Au niveau thérapeutique.
Moi, je travaille en thérapie cognitive et comportementale concernant l'anxiété. Donc, c'est go to the point. J'ai un point, un objectif, je règle le problème. Et après, ce qui vient, qui s'accroche à l'anxiété à droite, à gauche, c'est la personne qui demande à le régler ou pas. C'est une autre demande.
Mmh. Exact.
Différente.
OK. En même temps, Leïla. Alors justement, au début, on parlait de toutes ces sphères qui sont importantes dans votre vie de femme. Et puis, vous avez aussi une sphère de grand public à travers les réseaux sociaux dans laquelle vous donnez beaucoup de votre temps, beaucoup de vos conseils, beaucoup d'informations, beaucoup d'altruisme aussi, puisque c'est vraiment pour faire plaisir à l'autre, c'est pour servir l'autre. Les réseaux sociaux dans tout ça.
Eh bien, les réseaux sociaux, d'abord, ont commencé avec le Covid, de manière spontanée et ludique et super authentique. Je rigole parce que c'était une catastrophe au début, mais je voulais tellement donner à l'autre, parce que ça, c'est ma personnalité.
Ouais.
Ma personnalité qui fait que, bon, j'ai un peu cadré tout ça avec le temps et avec l'âge, on cadre tout ça, mais c'est une personnalité qui est innée en la personne. Et donc, à travers les réseaux sociaux, j'ai trouvé ce côté plus protecteur, je trouve, malgré ce que je veux dire. Vous voyez, pour moi, c'était plus protecteur que ce côté-là que j'avais de donner à des personnes que je connaissais de manière altruiste, comme ça, et qui pouvaient mal le redonner. Vous savez, inconsciemment, nous sommes toujours en position d'attente, même si on dit la position d'attente est une position de déception. Mais malgré tout, nous sommes des humains et avec certaines personnes, on pourrait choisir de donner de manière altruiste et inconsciemment être en position d'attente. Eh bien, je me suis retirée de ce côté-là et j'ai donné au grand public qui me le rend super bien. Je suis satisfaite parce que je n'ai pas d'attente d'une personne bien spécifique. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Pour moi, c'est quelque chose que je viens d'analyser avec vous, là, tout de suite.
C'est donner pour donner, en fait.
Oui, donner pour donner. Non, il y a le don. On ne donne jamais comme ça. Le don, c'est parce qu'on attend d'être apprécié, d'être reconnu, d'être de la reconnaissance, bien entendu.
Oui. Alors, vous dites, j'ai dû, avec le temps, enfin voilà ma personnalité, j'aime donner aux autres, j'aime faire plaisir, ça c'est ma personnalité, je suis faite ainsi, mais avec le temps j'ai appris à temporiser. Mais en même temps, là vous venez de dire, on ne donne jamais, pour rien.
Il y a un livre qui s'appelle « Donne le don ». N'est jamais donné comme ça.
Comme ça.
Non, le don. On appelle le don d'ailleurs.
Ouais.
Parce que vous savez, le retard de l'Hilouan.
Oui.
Il dit ça, ça appelle la voisine.
Oui.
À moi, comment ça s'appelle la Khawi ?
Non.
C'est
des choses
qui viennent là.
Exact. Parce qu'il y a Amar. On attend toujours la surprise.
En fait, c'est l'inscription inconsciente dans notre cerveau qui va faire que, nous sommes inscrits comme ça. On nous a inscrits comme ça, inconsciemment depuis des générations et des générations. Ça fait que donner fait partie de notre culture, les Marocains. Et donc, nous donnons, et puis nous attendons une reconnaissance, quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose de symbolique, ça reste quand même symbolique.
Bien sûr. Bien sûr. Mais quand on dit, par exemple, que certaines personnes donnent plus que d'autres, par exemple, vous dites, je donnais beaucoup et j'aime donner, je suis comme ça. C'est quoi ? C'est un besoin de reconnaissance qui est plus important ? C'est une faille ? Enfin, peut-être que j'utilise les mauvais mots.
Certainement une faille. On n'est pas parfait.
Oui.
Certainement une faille, mais une faille que je reconnaissais et que j'aimais.
Oui.
Et que j'acceptais.
Oui, c'est bien ça, en fait, de d'être consciente de ses propres failles, parce que d'autres vous diront, oui, mais donner de soi, etc., c'est l'acte le plus noble qu'on puisse avoir, c'est synonyme d'être une bonne personne, on ne voit que le bon côté de la médaille. Mais vous êtes consciente du 360 de la médaille.
Non, en fait, c'est important de reconnaître ses failles, parce qu'en fait, ça te permet de faire avec.
Oui, oui,
là,
oui, oui.
Failles, c'est
ça, c'est excellent. De faire avec, exactement. Ben voilà, de s'assumer, en fait.
C'est très important de reconnaître ses failles. Donc, mes failles, cette faille, je la reconnaissais, je la connaissais, je l'aimais. On me disait toujours, quand j'étais petite, maman me recommandait, papa, ensuite c'était mon mari. Mais je l'aimais. Et bon, après, en tous les cas, ils ont accepté, ils m'ont vu grandir avec. Et ils ont dit, finalement, elle est sympa, cette faille, elle a pu faire avec plein de choses, elle l'aime. Ben, je la chéris, ma faille.
Oui. Alors, j'ai entendu dire, Leïla, que vous étiez sur le point de devenir le Cupidon des Marocains. Est-ce que c'est vrai ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout de ça. En tous les cas, j'essaye de faire quelque chose qui va pouvoir aider les autres dans le sens de l'aide.
Oui, du couple.
Et du couple, en tous les cas. Toujours de manière vraiment humble. Dans ma famille, on nous a toujours appris d'être humble, de pouvoir, et ça, j'aime beaucoup, continuer dans ce sens. J'essaye toujours de m'améliorer et d'aider les autres comme je peux, avec toute...
Mais il y a une histoire de site de rencontre, non ?
Pardon ?
Il y a une histoire de site de rencontre.
En tous les cas, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour bientôt peut-être.
Super.
Je suis cofondeur.
D'accord,
Cofondeur, ça fait 3 ans de travail.
Ok.
3 ans de travail avec toute une équipe de 50 personnes, des développeurs, des marketeurs, des gens de une équipe de psychologues et de spécialistes en relations humaines. C'est en cours.
Super.
C'était quelque chose d'assez long. J'espère qu'on va pouvoir, avec toute l'équipe, pouvoir donner vie à cette appli. Et puis, peut-être pouvoir aider les gens à travers cette appli.
Ok. Alors, peut-être pour finir, justement, en parlant de couple et en parlant de relations amoureuses, souvent, quand on parle de relations amoureuses, on a tendance, dans l'inconscient général, de limiter ça à une durée, à un certain âge. Or, aujourd'hui, on voit que les couples sont en mutation, c'est-à-dire que la vie amoureuse est en mutation. On peut rester amoureux toute sa vie conjugale, on peut rester amoureux et intime toute sa vie amoureuse. Est-ce que ça, c'est une idée souvent mal perçue par les gens, que la vie amoureuse, conjugale, intime s'arrête à un moment ?
Vous savez, tout dépend de l'exemple et de votre histoire. Moi, mon histoire, par exemple, par rapport à mes parents, je dis toujours, puisque mes parents sont le plus vieux couple que je connaisse. Mon papa a 84 ans, merci maman a 76 ou 77 ans. Et donc, mes parents, je vois toujours papa, dès qu'on s'assied à table, dire « l'élèche d'auge, l'élèche taquela, payab ». Et donc, ça, pour moi, c'est de l'amour. C'est un couple qui a, on va dire, je suis super émotive là. On va dire que c'est un couple qui a... C'est affreux.
Mais non, c'est beau, au contraire, c'est pas affreux, c'est beau, Blegs.
Parce que mes parents, c'est quelque chose de magnifique. Et à travers ce couple, ils m'ont inspirée à faire tout ce que je peux faire aujourd'hui. Je trouve que tout est possible. Mes parents sont le couple le plus amoureux. Bon, il y a plusieurs formes de couple. Mmh. Eux, c'est vraiment le couple que, aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai pas envie d'être le couple fusionnel. Ils sont
d'accord.
Tous ensemble.
Oui.
Ils sont, mais je pense que c'est un couple de l'époque, mais c'est une forme de couple qui existe toujours.
Oui.
Ils font tout ensemble. Il a toujours un compliment pour maman. Et maman a toujours des choses à nous dire pour papa. Attention, papa, comme, etc. Donc elle le valorise toujours et je trouve que c'est magnifique.
Ouais, ouais,
c'est
ouais.
Ce qui fait que ce couple est toujours amoureux. Vous le voyez dans leurs yeux. Et ça nous fait rire, nous, entre frères et sœurs. On dit, oulala, il va nous raconter toujours quelque chose. Et une anecdote. Maman, elle fait un clin d'œil à papa, elle dit « Chouma, Chouma, peut-être que les maris de tes filles ne leur disent pas ça. »
Ah c'est trop mignon.
Et donc, c'est
ça inspire les maris des filles, justement. Ça les inspire.
Ben, écoutez, oui, ça, en fait, ça montre la stabilité dans la vie de sa femme, par exemple.
Oui.
Ou bien mon frère... Sa femme lui montre, enfin, le couple de mes parents montre la stabilité. Et c'est rassurant.
Oui,
très rassurant.
Rassurant, exact. Exact. Leila Amrani, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, d'avoir ouvert votre cœur, d'avoir été spontanée, honnête dans vos sentiments, vos émotions avec notre communauté de femmes d'aujourd'hui.
Mamie, merci pour ton invitation, Yasmine. J'étais ravie de pouvoir partager ce moment avec toi.
Merci infiniment. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.